Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Dans les chroniques précédentes, nous avons découvert successivement la génération des pères fondateurs et celle des architectes. Daniel, comment désigner les responsables politiques qui héritent de la maison communautaire ?
Les héritiers de l'œuvre communautaire légués par les deux générations précédentes, ont en charge d'en consolider les bases pour en assurer la pérennité. Comme le propose l'excellente revue en ligne « Toute l'Europe », on peut donc les appeler les « continuateurs ». Nombreux, appartenant à des classes d'âge différentes, aux affaires à des moments distincts, ils partagent une même ambition, pousser l'intégration politique européenne. Le premier d'entre eux, nous l'avons déjà rencontré, est l'Allemand Walter Hallstein, qui fait le pont entre les fondateurs et les continuateurs. Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne en 1958, avec l'assentiment de la France et de la Belgique, propose en 1965 un plan à vocation fédérale. Le plan se heurte au veto français du général de Gaulle, opposé à l'intégration politique, et débouche sur la première crise politique majeure de la communauté économique européenne. Durant 7 mois, du 30 juin 1965 au 30 janvier 1966, la France pratique la grève institutionnelle. C'est la crise de la chaise vide. Cette rude confrontation est résolue par le compromis de Luxembourg. Walter Hallstein quitte la Commission en 1967. Il occupe la présidence du mouvement européen de 1968 à 1974.
Dans la décennie 1960, des politiques communes se développent. Quelles figures y sont particulièrement attachées ?
L'exemple le plus parlant concerne l'une des plus anciennes politiques communes, la PAC, politique agricole commune, donc, qui se met en place en 1962 et à laquelle est associé un nom, celui de Sico Mansholt. Né en 1908, Mansholt grandit dans une famille néerlandaise de parents agriculteurs aisés aux fortes convictions socialistes. Après des études d'agronomie, il s'installe. Résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il est très marqué par la pénurie alimentaire qui sévit aux Pays-Bas en 1944. Durant les 13 années suivantes, il travaille en tant que ministre travailliste de l'agriculture à la reconstruction du secteur dans son pays. Européen, fédéraliste, il élabore dès 1950 un plan pour un marché commun de la production agricole. En 1958, Mansholt intègre la Commission européenne en charge des questions agricoles. Dans cette mission, il se heurte aux résistances nationales, en particulier françaises avec de Gaulle en 1965, et bientôt au phénomène devenu structurel de la surproduction européenne de lait et de viande. Proposé en 1968, le plan Mansholt vise à restructurer l'agriculture en réduisant le nombre d'agriculteurs et en augmentant la taille des exploitations. Face aux réactions violentes des milieux agricoles, le plan Mansholt se dégonfle quelque peu au fil des mois, jusqu'en 1972. À cette date, le père de la PAC, bientôt président éphémère de la Commission, 7 mois, en 1972-1973, a déjà, dans une lettre ouverte, alerté sur les dangers de la croissance et sur la nécessité de sauvegarder l'équilibre écologique.
En 1973, la communauté passe de 6 à 9 membres. Une figure incarne-t-elle cet élargissement ?
En effet, il y en a une. Quelque peu oubliée, ce responsable politique a été l'artisan principal de l'adhésion du Royaume-Uni. Il s'agit d'Edward Heath, premier ministre conservateur de 1970 à 1974. Né en 1916, issu d'un milieu modeste, il intègre un collège de l'université d'Oxford. Dans les années 30, il parcourt l'Europe, Allemagne, Espagne, Pologne. En 1944, il participe au débarquement de Normandie. Devenu haut fonctionnaire, puis député, il est à partir de 1951 de tous les gouvernements conservateurs et en 1960, il est chargé de préparer l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté. Mais il bute sur le veto français de 1963. En 1964, il prend la tête du Parti conservateur, alors dans l'opposition. Vainqueur des législatives en 1970, il devient Premier ministre et malgré l'avis majoritairement hostile des conservateurs, il pousse le dossier de l'adhésion. Il réussit grâce à l'appui d'élus travaillistes pro-européens et le traité d'adhésion est signé le 22 janvier 1972 pour une entrée le 1er janvier 1973. Heath déclare alors « C'est le plus beau jour de ma vie ». À la suite de la victoire travailliste en 1974, il quitte le poste de Premier ministre et abandonne la direction du Parti conservateur à une certaine Margaret Thatcher. En 1975, le vote référendaire majoritaire des Britanniques pour le maintien dans la communauté constitue pour l'europhile qu'il reste une consolation.
Et au milieu des années 1970, marquées par la crise économique et monétaire, quelle figure émerge ?
Alors, deux figures européennes s'imposent alors, le président français, Valéry Giscard d'Estaing, et le chancelier allemand, Helmut Schmidt. VGE, Valéry Giscard d'Estaing, est européen de naissance, hein, puisqu'il est né à Koblenz en 1916, et de conviction, il est proche de Jean Monnet et soutient la candidature d'adhésion britannique. Après une longue carrière ministérielle aux finances, de 1959 à 1966 et de 1969 à 1974, il est élu président de la République et clôt l'épisode d'obstruction gaullienne à l'intégration politique européenne. Helmut Schmidt naît à Hambourg en 1918. Après des études de droit et de sciences politiques, il sert dans la Wehrmacht sur le front de l'Est puis de l'Ouest et obtient la Croix de guerre. En 1946, il dirige un syndicat étudiant proche des sociaux-démocrates. Élu député en 1953, il est ministre fédéral de l'économie et des finances de 1972 jusqu'à 1974 et travaille avec son homologue français VGE. Européen convaincu, les deux dirigeants complices multiplient les initiatives qui vont constituer des avancées européennes majeures. 1974, création du Conseil européen. 1975, création du FEDER, Fonds européen de développement régional. 1976, élection du Parlement européen au suffrage universel direct. 1979, création du système monétaire européen avec l'écu pour unité de compte européen. Avec les continuateurs suivants, Yann s'ouvre un nouveau chapitre largement préparé par leurs prédécesseurs. Nous verrons ça dans une prochaine chronique.